Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le directeur du département opinion de l'IFOP. Son livre, L'archipel français, avait fait grand bruit en 2019. Il publie aujourd'hui La France sous nos yeux, coécrit avec Jean-Laurent Casselli, sous-titre Économie, paysage, nouveau mode de vie. C'est aux éditions du Seuil et ce sera en librairie après-demain. Question réaction, amis auditeurs, au standard sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Jérôme Fourquet, bonjour.
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 Et merci d'être au micro ce matin pour évoquer ce livre passionnant, précieux pour comprendre la France d'aujourd'hui. C'est un livre d'histoire, de géographie, de sociologie, mais il est écrit sur le ton d'un long reportage avec curiosité, empathie et souvent beaucoup d'humour. Vous partez d'un paradoxe. Nous avons l'impression de sortir tout juste des 30 glorieuses alors que cette parenthèse s'est refermée à la fin des années 80. Vous écrivez l'écart entre le pays tel qu'il se présente et les représentations que nous en avons est abyssal. Et votre livre a donc pour but de dissiper ce flou et de décrire avec minutie ce que vous appelez la France d'après. D'après quoi, Jérôme Fourquet ?
Alors la France d'après, c'est la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui fait suite à ce que nous avons appelé avec Jean-Laurent Casselli la grande métamorphose, c'est-à-dire une période qui court du milieu des années 80 à nos jours, au cours de laquelle, comme son nom l'indique, la France a connu une transformation en profondeur et tout azimut. Alors on peut détailler quelques domaines, par exemple en matière économique, puisqu'on commence par cela, on est passé d'une économie de la production à une économie du tourisme, de la consommation et des loisirs. S'il fallait prendre un symbole, une date, le 30 mars 1992, l'usine de Billancourt, pas loin d'ici, Renault-Billancourt ferme. Et 12 jours après, le 12 avril, est inauguré Euro Disney. Donc là, on a bien le symbole de ce basculement.
De la mutation. Vous écrivez, pour comprendre la France d'aujourd'hui, il faut étudier la poussée démographique en direction de la façade atlantique, le développement des supermarchés sur le territoire français, la consommation des classes moyennes, mais aussi les émissions de Stéphane Plaza, ça c'est sur M6, pour ceux qui ne regardent pas la télé, les stages de jeunes dans la Drôme, la blanquette de veau, les kebabs, les sushis, le tacos français, le yoga, les sorcières. Pourquoi ces sujets que vous prenez, dont vous parlez, certains semblent anecdotiques. Pourquoi sont-ils importants pour comprendre la France d'aujourd'hui et ces métamorphoses dont vous parlez ?
Alors, ce qu'on a essayé de montrer avec Jean-Laurent Casselli, c'est de qu'en étudiant les modes de vie, les paysages, les façons de consommer, les références culturelles, tout ça nous apprenait énormément sur ce que la France était devenue. Et en restant modestement à notre place, on s'inspirait de ce qu'avait fait en son temps Roland Barthes en prenant quelques objets iconiques. Alors, il parlait du steak frites, nous on parle du tacos et du kebab. Et puis, sur un autre registre, s'inscrire dans la tradition de l'école des annales, avec Brodel, avec Lucien Febvre, qui s'intéressait justement aux flux commerciaux, aux modes d'alimentation, parce que tout ça disait énormément sur nos transformations. Ce qu'on voit à travers tout cela, eh bien, c'est l'influence d'une globalisation tout azimut, avec, on a essayé de détailler un petit peu la sédimentation des couches culturelles, des influences qui s'étaient sédimentées dans notre pays. Donc, des couches régionales, la vieille couche catholique, et puis au-dessus, une couche américaine, avec une accélération très forte de l'américanisation dans les années 80. Tout ça commence après-guerre, mais ça s'accélère beaucoup. Pour vos auditeurs, on peut citer par exemple la date de 1986, où pour la première fois, et ça ne sera plus jamais démenti depuis, les films qui font plus d'un million d'entrées en France sont majoritairement américains. C'est aussi la période des séries. Mais cette influence n'est pas qu'américaine. On parle d'une couche asiatique avec le formidable engouement pour les mangas, les sushis. Vous savez que tous les ans en France, en région parisienne, à Villepinte, a lieu ce qui s'appelle le Japan Expo, qui est un grand salon à l'ode de la culture japonaise. C'est le troisième salon le plus visité de France après le mondial de l'auto et le salon de l'agriculture. Ouais. Et puis, on a aussi ce qu'on appelait la couche orientale, avec ses kebabs, le développement de la gamme de produits halal, les bars à chicha, etc. etc. Ouais. Et donc, tout ça produit une énorme hybridation. Et un produit emblématique de tout ça, ça pourrait être le tacos français, qui est un produit d'inspiration mexicaine, réinventé dans la banlieue de Grenoble, packagé selon une mode américaine, puisqu'il y a une chaîne qui s'appelle Otacos, avec des influences maghrébines, et c'est un produit d'exportation français, et c'est aujourd'hui un produit qui est plébiscité par les jeunes générations. Donc c'est tout ça, la France d'après.
Vous dites, Jérôme Fourquet, il faut regarder les flux. Et alors, s'il y a bien une entreprise qui résume ce que sont les flux aujourd'hui, c'est ce que vous appelez la France Amazon. Amazon qui a remplacé la civilisation industrielle. Le tableau que vous faites de la désindustrialisation de la France est absolument terrible, sinistre. Et vous écrivez que l'entrepôt de logistique comme lieu de transit des marchandises s'est substitué au site de production qui était l'usine. Le couple camion-autoroute a remplacé le rail de l'ère industrielle. Que dit justement ce couple camion-autoroute de la société d'aujourd'hui, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan de nos modes de consommation?
Alors sur le plan économique, on est clairement sur une économie française qui aujourd'hui a comme principal moteur la consommation, et non plus la production, avec ce qu'on a appelé, des traductions sociologiques, des nouvelles classes populaires qui sont, on l'a appelé orienté client, c'est-à-dire au service du client. Et l'entrepôt Amazon, comme le camion ou la camionnette de livraison, ça a pour but de livrer le plus rapidement possible à des consommateurs de plus en plus exigeants qui notent la prestation, leur livrer des marchandises.
Ça aussi, c'est nouveau, qu'on note tout. On note le chauffeur de taxi, on note le médecin, on
tout
note...
À fait.
Ce système de notation, on était impensable il y a 10 ans.
C'est une société qui est centrée autour de la consommation, du client. Et tout ça génère à la fois des paysages nouveaux. Quand vous vous promenez en France, vous voyez sur les bords des autoroutes tous ces énormes entrepôts.
Alors, oui, il n'y a pas qu'Amazon.
Il n'y a pas qu'Amazon. Il y a plus de 5000 entrepôts de grande taille en France qui sont tous sur des nœuds autoroutiers qui ont redessiné la carte de France. Ils redessinent aussi notre sociologie. Vous voyez que typiquement, la crise des Gilets jaunes, c'est la révolte de cette France, cette nouvelle France populaire qui travaille à l'ombre des grandes métropoles et dans ce qu'on a appelé la France backstage, en bon français, c'est-à-dire la France des coulisses. Pour que cette grande machinerie puisse fonctionner, il faut qu'il y ait tout un protocole qui se soit mis en place et qui a transformé profondément notre société et nos paysages.
Mais vous parlez d'une gigantesque bataille géographique qui oppose les territoires en France. C'est une lutte des places, écrivez-vous, entre des territoires désirables, ceux que vous appelez la France triple A, et d'autres territoires qui restent aux marges. Où passent les lignes de cette fracture territoriale?
Alors, c'est une marqueterie en fait, et dans le livre, nous avons reproduit une carte qui a été dressée par Mathieu Garnier, qui est un géographe qui a travaillé avec nous, qui est allé regarder les requêtes qui sont faites sur Internet, sur les pages Wikipédia des communes. Vous savez que toutes les communes de France, notamment les petites, n'ont pas d'office du tourisme, mais elles ont toutes une page Wikipédia. Et on peut regarder le nombre de fois où elles ont été cliquées, et quelque part, ça montre leur désirabilité. Et donc, on a fait cette carte de France, de la France qui brille, la France qui attire, celle qui est instagrammable, celle où on a été, pour certains, se confiner au printemps 2020, et puis la France de l'ombre. Alors on a les grandes métropoles, on a les zones touristiques, on a les littoraux, et puis on a toute cette France de l'ombre, les anciens bassins industriels, ces zones périphériques où on implante des lotissements et des entrepôts. Et vous voyez bien que, on a dit tout à l'heure, la consommation était un des principaux moteurs économiques de la France aujourd'hui, mais l'immobilier l'est également, avec ce rush vers les littoraux post-Covid et la main invisible du marché qui va faire bouger les prix de l'immobilier, qui vous dit si vous êtes du bon ou du mauvais côté de la barrière.
Enfin, la main invisible à un propriétaire, c'est Stéphane Plaza, du nom de l'animateur de M6, qui a lancé une chaîne d'agences immobilières. Qu'est-ce que ce Plaza majoritaire dit de nos désirs immobiliers?
Alors, on a appelé ça le modèle Plaza majoritaire en clin d'œil et en hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France, parce que on voit bien la place centrale qu'occupe aujourd'hui l'immobilier et l'aménagement de la maison et du logement dans la vie des Français. Ça fait plus de 10 ans qu'il a des émissions qui font beaucoup d'audience, et vous voyez que beaucoup de préoccupations de nos concitoyens tournent autour de cela. Avec
Maison avec jardin.
La maison avec jardin, et donc ça va poser des problèmes peut-être post-Covid, dans le contexte de réchauffement climatique, parce qu'on va poursuivre l'étalement urbain. C'est la civilisation du cocon. Hein, on est bien chez soi avec le barbecue, le trampoline pour les enfants, l'écran plat, le double canapé. On voit bien que encore une fois, cet attrait pour l'aménagement du domicile est aujourd'hui central. Avec si vous voulez, un modèle, un triptyque, c'est le logement, la maison et le centre commercial, qui sont encore, pour beaucoup de Français,
très
pas
puissant.
Pour tous, un modèle très très puissant.
Vous me disiez tout à l'heure, avant de rentrer en studio, beaucoup de gens n'ont pas été votés de cette France-là, n'ont pas été votés aux dernières régionales, parce qu'ils vous ont expliqué, il faisait beau, et il y a barbecue.
Voilà, donc on a dit, voilà, l'appel du barbecue a été plus fort que le passage par les urnes, et deux tiers de cette France s'est abstenue.
Ouais.
Et sur des sujets qui vous animent souvent, on a là aussi peut-être une explication entre un bonheur privé et un malheur public, en disant, voilà, on croit plus forcément à la France comme nation, comme grande puissance, etc. En revanche, le bonheur ici et maintenant,
c'est la
sur notre terrasse,
amis,
la famille, ouais. autour du barbecue ou de la piscine, pour ceux qui en ont, la France étant le pays au monde qui compte le plus de piscines après les États-Unis.
C'est vrai que vous avez un chapitre là-dessus aussi. Jérôme Fourquet, une grande partie de votre livre est consacrée aux classes moyennes, qui étaient autrefois l'un des signes d'une économie robuste et d'un ascenseur social en bon état. Vous dites que les classes moyennes sont aujourd'hui frappées par un processus de bipolarisation, à la fois par le haut et par le bas. Vous prenez l'image du sablier. Et ça se manifeste surtout dans la consommation. Vous parlez de premiumisation de la consommation. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Donnez-nous aussi des exemples.
Alors la premiumisation, c'est comment des produits qui étaient jusqu'à présent associés ou destinés à la classe moyenne sont montés en gamme.
La bière.
Par exemple, la bière avec les microbrasseries.
Le burger.
Certains burgers. Dans le domaine du tourisme, comment par exemple les mobilhomes ont remplacé les toiles de tente et dans les campings, comment certaines stations de ski, vous voyez, on rend hommage au film culte Les Bronzés, hein, qui était un décalque des grands ensembles des années 70, mais à la neige, comment certaines stations sont montées en gamme et s'adressent à une clientèle très très aisée aujourd'hui. Et donc, il y a un désarrimage par le haut. Mais en même temps, on a aussi un phénomène de désarrimage par le bas, avec ce qu'on a appelé la mise en place d'un marché secondaire. Et un exemple emblématique de cela, c'est le développement, et c'était pas gagné d'arriver à le faire, dans la France qui était très fortement redessinée par la grande distribution, c'est le développement du hard discount. Et donc vous parliez de la fin des 30 Glorieuses, le premier magasin hard discount est ouvert en France en 1988, et c'est la date où Henri Mandras, un grand sociologue, publie un livre qui s'appelle « La seconde révolution française », qui parlait du phénomène de moyennisation opéré dans les années 60, 70, 80. Et donc, lui, par un télescopage dont l'histoire a le secret, il y a les prémices du désarrimage du bas de la classe moyenne avec une offre qui s'est adressée à elle, notamment par exemple en matière automobile, avec le succès de la marque Dacia, qui initialement était pensée pour conquérir les marchés émergents, et qui en fait a trouvé un marché en France.
Alors il y a les mutations de la consommation, de notre consommation, il y a les mutations de l'immobilier, on en a parlé, et puis il y a les mutations évidemment des nouveaux métiers, des métiers comme ceux générés par les applications, les chauffeurs VTC, les livreurs à domicile. Pour les décrire, vous parlez d'un nouveau larbina. Vous dites ce qui les caractérise, c'est l'absence de conscience de classe par rapport aux ouvriers d'antan. Mais justement, le soulèvement des gilets jaunes n'indique pas le contraire, qu'il y a encore une conscience de classe?
Alors c'est ce qu'on a appelé, en hommage à Gramsci, le soulèvement des classes subalternes. Hein, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont objectivement situés plutôt en bas de l'échelle sociale et qui sont à la fois économiquement, mais aussi en termes de position dans le système économique, en situation subalterne, c'est-à-dire qu'elles sont au service des autres. Et donc elles ont conscience d'être en bas, mais elles n'ont pas conscience d'appartenir à une classe ouvrière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de héros, il n'y a plus de figures emblématiques. Et donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, de la France Amazon. Une usine ne produisait pas la même sociologie, la même culture ouvrière qu'aujourd'hui un dépôt logistique ou un EHPAD. On parle beaucoup aujourd'hui de la silver economy, avec le vieillissement de la population. On est passé de 2500 à 7500 EHPAD en une quarantaine d'années. Mais on a un nouveau prolétariat, c'est celui des aides-soignantes. Hein, vous vous souvenez que Ingrid Levavasseur, une des égéries du mouvement des Gilets jaunes, était précisément dans ce métier-là. Donc ces classes populaires n'ont pas disparu, mais il n'y a plus le grand récit et il n'y a plus la fierté d'appartenir à une classe autonome avec ses leaders, avec son propre idéologie.
On passe au standard. Très nombreux appels, Jérôme Fourquet, pour vous ce matin. Marc, bonjour, bienvenue.
Merci, bonjour. Oui, monsieur Fourquet, j'ai donc une question qui s'adresse à vous. À savoir, comment se fait-il que vous n'évoquiez pas le décrochage de la France au niveau du classement PISA, qui révèle donc la montée en puissance d'une ignorance galopante qui, dont est victime la société française, et qui explique à mon sens, qui est le dénominateur commun, à la montée du consumérisme que vous avez évoqué au travers de la japanisation, l'américanisation, et qui montre le, là aussi le recul de la culture française et la montée de cette ignorance.
Merci Marc pour cette question, ce constat et cette question. Jérôme Fourquet vous répond.
Alors on a essayé de balayer et de faire une fresque assez large, mais on n'a pas pu traiter tous les sujets. Mais effectivement, cet effondrement éducatif hein, qui chiffre à l'appui s'inscrit en faux par rapport au discours un peu lénifiant sur le niveau qui ne cessait de monter est un sujet de préoccupation. Mais si Marc est intéressé par ce sujet, on a un chapitre un peu connexe qui parle de la métamorphose aussi du monde enseignant. Avec comment cette culture enseignante s'est transformée en l'espace d'une quarantaine d'années.
Alain, au standard. Bonjour Alain, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute. Ben,
j'écoute le constat de M. Fourquet et je suis un peu inquiet parce que le décrochage de la France, la perte de nos valeurs, la mondialisation, les tacos, etc., etc. Je me dis, est-ce que ça laisse pas la place à la montée des extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite? Et ceci m'inquiète. Il faudrait que vous reveniez après les élections présidentielles.
L'invitation est prise, c'est vous qui l'avez formulée, Alain. Réponse de Jérôme Fourquet.
Alors, on a effectivement ce qu'on essaye de montrer, c'est cette grande métamorphose qui, quand on l'a sous les yeux, quand on prend un peu de recul, est effectivement proprement vertigineuse. Ensuite, vous avez toute une série d'aspects qui sont éminemment positifs à ces changements. Le mixage ou l'influence de culture étrangère n'est pas forcément quelque chose à rejeter en soi, mais on voit bien que tout cela peut déstabiliser ou troubler toute une partie de la population, notamment celle qui a grandi dans ce qu'on appelait la France d'avant et qui perd, si vous me permettez l'expression, son latin.
Mais justement, on entend beaucoup depuis le début, depuis cette rentrée et puis cette campagne présidentielle qui commence de manière assez électrique, on entend beaucoup la phrase « on ne reconnaît plus notre France ». Votre livre, quand on le lit, on a l'impression qu'il démontre que le changement du pays n'est pas tant ethnique ou religieux, comme dit l'extrême droite, mais qu'il est surtout culturel, économique et social.
Alors, vous avez évoqué mon précédent livre, L'archipel français, où on parlait beaucoup de cette transformation démographique, ethnique et culturelle, qui est une réalité qui a énormément modifié la physionomie, le visage de la société française. Mais cette métamorphose de la société française ne se limite pas à cela. C'est-à-dire que l'influence américaine, cette globalisation, cette transformation même de nos paysages, de nos façons de vivre, de nos façons de consommer, est au moins aussi déroutante.
Et donc vous ne vous contredisez pas dans ce livre avec l'archipel français.
Pour moi, c'est un complément et c'est un autre éclairage pour essayer d'embrasser toutes les transformations assez vertigineuses que nous avons connues.
Mais avez-vous l'impression, Jérôme Fourquet, d'un pays heureux ou d'un pays en voie de désagrégation?
Alors toute une partie de la population, notamment celle qui adhère et qui se situe dans ce modèle qu'on appelait plaza majoritaire, elle vit un bonheur privé qui est plutôt réel. Et donc il y a sans doute des catégories qui n'accèdent pas à ce modèle-là, qui sont en situation de frustration. Vous savez, on va citer les grands auteurs, Jacques Séguéla disait « S'il y a 50 ans, t'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie ». Je pense que dans cette France-là, la France des Gilets jaunes, elle se dit, si à 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes enfants, alors tu n'es pas un bon parent. Comme on est une société qui est très centrée sur la consommation, aujourd'hui, et que cette consommation, pour que l'économie perdure, on rehausse sans cesse le minimum exigible, eh bien, on a toute une partie de la société française qui n'arrive plus à accrocher les wagons et qui est dans cette situation de frustration.
Il nous reste très peu de temps. Quelques questions rapides. Impossible de ne pas demander au directeur du département opinion de l'IFOP son analyse de l'état de l'opinion dans cette pré-campagne présidentielle. Éric Zemmour donnait à 15% dans le sondage Ipsos de ce week-end dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen et devant les candidats putatifs de la droite, lui-même étant putatif. Est-ce que Zemmour bénéficie désormais d'une dynamique, selon vous, ou est-ce un embrasement comme on a pu en voir autrefois
médiatique?
Ouais, dans d'autres campagnes présidentielles.
Alors, incontestablement, il y a un effet de bulle médiatique qui s'observe et donc ça nourrit notamment cette dynamique sondagière. Néanmoins, tout ça ne tombe pas du ciel, si je puis dire. Et quand vous regardez d'autres enquêtes d'opinion, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement, cette angoisse identitaire, cette peur sécuritaire, s'inscrit dans une réalité qu'une partie de la population vit. On parlait d'Éric Zemmour, mais regardez le succès d'un film comme Bac Nord. Tout ça non plus n'est pas complètement anecdotique. Et donc, Zemmour aujourd'hui bénéficie d'un paysage électoral à droite assez morcelé et avec peu de dynamique. Donc il occupe un espace qui est vide. Il y a aussi un engouement journalistique parce que ça fait vivre, on a une histoire à raconter parce que sinon on allait s'embêter sur le duel annoncé Macron-Le Pen. Mais il y a aussi un terreau sur lequel il s'est joué et il a une forme de talent pour prendre en charge ses angoisses identitaires.
Puis ensuite, on n'aura pas le temps de poser des questions, il faudra acheter le livre pour le lire, mais c'est vrai qu'il y a le grand changement culturel, le rapport au yoga, le rapport au chamanisme, à la sorcellerie, le succès des sorcières, et la musique qui change. Vous dites, Aya Nakamura est en train de remplacer Jean-Jacques Goldman.
Alors là, on est, si on faisait le parallèle, et c'est pas insultant dans ma bouche, c'est une petite malice, mais on peut dire, Aya Nakamura a parlé du tacos français, elle est, sur le plan musical, l'illustration de cette hybridation. Elle est fille d'une famille de griots, donc c'est conteurs maliens, elle a grandi en banlieue, elle a pris un nom de scène japonais issu d'une série américaine, et elle est aujourd'hui la chanteuse la plus streamée en France. Pour ce qui est du chamanisme et autres, parler de la France d'après quoi, c'est aussi la France d'après le christianisme, c'est-à-dire qu'on a eu un effondrement de la matrice catholique, et tout ça n'a pas épuisé la soif spirituelle. Et donc dans ce vide, eh bien, vous avez toute une série d'offres nouvelles, alors on parle aussi des évangéliques ou autres, qui se sont engouffrés dans cet espace laissé vacant et qui donnent cet aspect très déroutant à la France qu'on a sous nos yeux.
Merci Jérôme Fourquet.
Merci à vous.
On a
merci
pris un
beaucoup.
Immense plaisir avec Léa
merci
à lire
de votre
ce
avis.
Livre. La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie. On peut dire que c'est la version sciences humaines et sociales de certains romans de Houellebecq.
Tout à fait. Bienvenue dans le Houellebecquistan.
Voilà. C'est aux éditions du Seuil en librairie après-demain. France Inter.